Canalem, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, bonjour François.
Bonjour Clotilde.
Oui, Clotilde, dans votre compagnie, avec de l'autre côté, dans l'aquarium, Jean-Sébastien, la liberté, merveilleux petit poisson, très agile. Aujourd'hui, on va encore se balader beaucoup à cette émission Aime l'été, parce que c'est le temps pour le faire. François, la pulperie, notamment, embauche des personnes en situation de handicap depuis quelques années. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, à Chicoutimi. Vous nous amenez sur quel sentier, mon petit François ?
Sur les sentiers des regrets éternels.
Oh !
Mais c'est pas si triste
que
ça.
Et c'est vrai qu'ils sont en train de manger des bonbons comme des fous pendant qu'on est en Londres, mais c'est épouvantable. Ils sont en train de prendre tous un ventre, pas possible. Ah là 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 là, incroyable. Bon, alors, vous savez que nous, on va retrouver aujourd'hui Patrice Cocro, qui est sur le chemin de Rimouski, à pied. Mais avant qu'on parle avec Patrice, on va déjà faire étape dans cette charmante petite ville, grande ville d'ailleurs, avec comme guide l'excellente Martine Proux. Emmanuel Robitaille va venir encore aujourd'hui, François ?
Ben oui, j'espère bien.
T'espères ? Oui. Avec un billet
cognitif.
Exactement. Et puis on va finir avec un énorme festival qui se poursuit jusqu'au 17 août sur le thème de l'Italie. C'est le festival d'Orford. C'est un monstre de festival de musique classique et de jazz. Et c'est très, très heureux que nous en parlions aujourd'hui, mon petit François. On va d'abord aller en chanson. Et puis, juste après, on va aller rejoindre Monsieur Danny Cloutier à Chicoutimi.
Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime, oh, for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? You're putting on the Ritz. You're different types to wear a day coat, fence with stripes and getaway coat, perfect fits. You're putting on the Ritz. He's dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Justin Bieber. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. You're putting on the Ritz. Thank you.
on the Ritz.
Pièce qui fait tracer 100 ans dans un peu moins de 10 ans. Putting on the Ritz est interprétée ici par Lily T.
Merci beaucoup. Alors, on s'en va tout de suite à Chicoutimi, rejoindre Dany Cloutier, responsable des communications de la pulperie de Chicoutimi. Bonjour Dany.
Bonjour, vous allez bien?
Très très bien, vous-même?
Oui, merci beaucoup.
Bonne petite chaleur aussi là-bas? Ou...
Oui, avec quand le... même, ouais. On sent quand même l'humidité un petit peu, mais on est quand même bien. Là.
Bon, ben tant mieux pour vous, parce que dans les grandes villes, là, c'est franchement redoutable.
Oui, j'imagine.
Dany, vous, d'abord, la pulperie... C'est un lieu qui ne date pas d'hier, hein, François. J'imagine que c'est une question aussi qui,
c'est
vous,
exactement ça, ma
qui
question.
Vous brûlait les lèvres.
Mais oui.
Oui, tout à fait. La pulperie, il faut le dire, à l'époque, ça date des années, du début des années 1900. Donc, c'était vraiment une usine de pâte et papier là, qui faisait la pulpe, qui servait à la production de la pulpe. Donc, à la base, c'était ça. Ça a fermé au courant, faire une histoire courte, ça a fermé au cours des années 20, 1920. Et ça a été classé lieu patrimonial dans les années 70 pour devenir un musée tel qu'on le connaît aujourd'hui. Là, depuis 2002, on est vraiment un musée avec des expositions, des spectacles.
Ouais.
Il y a énormément de choses qui se passent à la pulperie.
Je lisais un petit peu le dossier de recherche. J'ai l'impression qu'il y a double mission. Il y a mission historique, partage du patrimoine, et il y a mission humaine, humaniste aussi.
Oui, tout à fait, exactement. Là, il y a, effectivement, comme vous le dites, il y a une mission vraiment historique avec des expositions qui relatent le passé, notamment une exposition sur ce qu'était la compagnie de pulpe de Chicoutimi à l'époque, une exposition sur le peintre Arthur Villeneuve, etc., etc., mais aussi vraiment humaine avec des gens qu'on a ici à la pulperie avec des déficiences. Il y a énormément de choses et énormément de missions à la pulperie. On est très large ce qu'on fait, là, effectivement.
Mais vous avez votre originalité, entre guillemets, c'est que vous employez tout de même des... Vous employez, qui est-ce que vous employez?
Ben nous, là, depuis 2010, il faut le dire, c'est déjà la 10e année, ça passe vite. On a conclu un partenariat avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Centre de formation générale des adultes. Et depuis 2010, on a des stagiaires qu'on appelle, nous, à la pulperie, là, des gens avec une certaine déficience qui nous aident grandement dans différentes tâches, que ce soit le montage exposition, le ménage. L'été, quand il fait beau, ils sont dehors, ils nous aident avec les plantes, les fleurs. Ils font énormément de choses, puis c'est un bonus pour nous. Là. Ces gens-là travaillent très, très fort. Il faut dire qu'il est passé environ près de 60 personnes là, depuis les débuts.
Ah oui?
Ah oui, quand même.
Oui, donc la plupart passent ici à la pulperie comme en stage, et après ça se retrouve dans d'autres entreprises. Donc c'est un plus pour nous, mais pour les autres entreprises qui engagent ces personnes-là par la suite, ça leur fait comme un peu une genre de formation. Donc c'est une très bonne chose, on est très fiers d'avoir ces gens-là avec nous. Là.
Alors, la pulperie, vous le disiez tantôt, a différentes missions, comme celle par exemple, et là je lis hein, sur le dossier que vous nous avez envoyé, d'acquérir, de conserver, de mettre en valeur ses collections, son site historique classé, parce que c'est d'abord et avant tout un site historique aussi classé.
Oui.
Ethnologique, historique, artistique, dans une perspective, dites-vous, de développement culturel, éducatif et touristique. Est-ce que les touristes suivent?
Oui, les touristes suivent. Là, juste pour dire, l'année passée, on a eu une exposition sur Tintin. Ça a été une année record. On a eu près de 100 000 visiteurs qui sont venus à la pulperie, toute activité confondue. Mais oui, les touristes suivent. Comme on le mentionnait, il y en a pour tous les goûts, autant des expositions que comme on fait du théâtre d'été, on fait des spectacles musicaux, des spectacles d'humour. On en a vraiment pour tous les goûts.
Ouais.
On a même mentionné aussi là, ethnologique et tout ça. On a une collection de plus de 26 000 objets. Donc, vraiment, les gens peuvent visiter ça sur demande, évidemment.
Rapport à la pulperie, par rapport à l'usine?
Non, c'est tout à fait, on a des objets, c'est sûr que nous, à la pulperie, on se spécialise sur le peintre Arthur Villeneuve, donc on a beaucoup d'objets de toiles d'Arthur Villeneuve dans la collection, mais on a aussi des objets d'époque, que ce soit On a même on a beaucoup de toiles, mais on a aussi des reproductions, on a aussi un piano, on a une armure de chevalier, que, vite comme ça, je pense, mais plus de 26 000 objets qui peuvent servir à l'occasion dans certaines expositions. Si, par exemple, on fait une exposition sur la poterie, par exemple, on en a fait une il y a plusieurs années, ben on avait plusieurs pièces qui provenaient de la collection qu'on pouvait présenter aux visiteurs. Donc, on fait ça plusieurs fois là, par année, des expositions avec des objets de la pulperie pour les faire découvrir.
Il y a aussi des marionnettes?
Oui, tout à fait. Cet été, là, on a vraiment une très belle exposition qui termine à la fin septembre, donc le 22 septembre. Le 22 septembre, c'est une exposition sur des marionnettes géantes. Donc, on parle de marionnettes, là, les plus petites qu'on a, c'est environ 4-5 pieds, jusqu'à 10-15 pieds environ de hauteur. On a plus de 70 marionnettes. C'est une exposition qui relate le parcours du Théâtre Sans Fil, qui est une compagnie dans le coin de Montréal qui fait... beaucoup de spectacles à travers le monde depuis les années 80, donc on est vraiment une rétrospective, puis les gens apprécient beaucoup l'exposition.
Et puis c'est très moderne, puisqu'en fait, vous avez le Hobbit et du Seigneur des Anneaux.
Oui, tout à fait. Il faut dire que ça, eux ont fait ça vraiment, étaient des précurseurs. On fait ça dans les années 80, donc avant que les gens voient les films et tout ça. Mais on se retrouve vraiment dans l'ambiance. Il y a une section complète dédiée au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. Les gens, je pense, c'est la section préférée des visiteurs, des commentaires qu'on a. Mais on a toutes sortes de sections aussi, des marionnettes un peu plus enfants, des marionnettes un peu plus épeurantes. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vraiment une très belle exposition, puis on en est fiers.
Et avec le Festival des arts de la marionnette à Saguenay, vous avez le théâtre d'été qui présente Le Père Noël est une ordure?
Oui, tout à fait, là, tout à fait.
En marionnette?
Non.
Non, c'est pas avec l'exposition est avec le Festival des marionnettes, l'exposition de marionnettes, mais Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment avec une autre compagnie qui s'appelle le Théâtre sans masque.
Oui.
Qui est une compagnie basée à Chicoutimi. Fait que nous, on est très fiers de présenter ça pendant l'été là, dans un autre bâtiment, parce qu'il faut dire que nous, on a plusieurs bâtiments. Ça, c'est présenté dans un bâtiment spécial où tous les spectacles, théâtre, humour, musique, etc., se déroulent dans ce bâtiment-là. Puis, on est très fiers, la compagnie a adapté les textes et tout ça.
C'est ce que j'allais demander. Est-ce que les textes ont été adaptés? Parce que c'est franchement franchouillard, hein, cette affaire-là.
Oui,
C'est vraiment bleu, blanc, rouge. Hein?
Il y a quelques expressions qui sont restées, mais oui, ils ont francisé en québécois, si on peut le dire, là, quelques expressions aussi pour que ça soit plus facile à comprendre et tout ça, mais ça reste quand même fidèle à la mouture originale aussi quand même.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'ai déjà deux doigts de m'agacer.
Où est-ce qu'on en était
déjà?
Oh
boy! Ben écoutez, merci beaucoup pour cette belle promenade à la pulperie de Chicoutimi qui, comme je le disais au tout début, un peu plus sérieusement, de cette entrevue a deux missions. Une mission historique, même trois missions, une vocation culturelle et une vocation humaniste. On vous remercie encore une fois beaucoup d'aller chercher toutes ces personnes merveilleuses.
Ben, ça nous fait plaisir.
Qui vivent avec une déficience, mais qui peuvent s'impliquer tellement bien et qui nous apportent tellement. D'ailleurs, à un moment donné, hein, vous dites, Dany, que c'est comme du soleil qui arrive tous les matins quand ils arrivent.
Ils sont donc indispensables.
Oui, tout à fait. Là, les gens sont heureux, ils arrivent, ils ont le sourire, ils ont hâte de travailler, ils sont vraiment impliqués. Puis, ça paraît, nous, on a une belle ambiance de travail avec eux. Donc, on est très satisfaits du partenariat, puis ça va continuer pour plusieurs années encore, ça, c'est sûr et certain.
Dany Cloutier est responsable des communications à la programmation de la pulperie de Chicoutimi. Merci.
Ben merci à vous. Merci.
Bonne journée.
Sur le bord de la rivière, il y avait des illusions dans ma main que tu laissais sous ton pullover. De mal penser la faiblesse de n'avoir pas fait d'études. Les chansons de ma jeunesse et de Robert Zimmerman, l'altitude. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oh, des regrets, des regrets. J'ai perdu mon allégresse sur des bateaux de conquête. J'ai perdu par leur vitesse quelque chose que dans mon cœur je regrette. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Citroën, où sont les gens dedans de mon baptême, la timbale d'argent? Je voudrais que tout revienne alors que tout est passé. Et je chante à perdre haleine que je n'ai que des regrets, des regrets.
Alain Souchon et une multitude de regrets, mais peut-être pas autant que ceux dont va nous parler maintenant l'ami François Baruel. François, oui. Des regrets d'été, des regrets éternels
appliqués à l'été. Mais oui, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est vrai que cette rubrique doit être légère parce qu'on est en été, on ne va pas faire des rubriques très lourdes. Mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça s'appelle regrets éternels, tout simplement parce qu'en fait, il s'agit d'un enseignement qu'on peut tirer de nos anciens. C'est vrai, cette chronique porte un nom un petit peu froid. En période de vacances et de liberté sur la plage, c'est pas très à propos. Mais vous allez voir quels enseignements édifiants on peut retirer de la vie de nos anciens, nos aînés, qu'il faudrait écouter plus que jamais. Alors on va lui donner un autre titre un peu plus sympathique. D'accord. Qui s'appelle « Regrets éternels et vacances à moitié nues sur la plage
». Oh là.
Voici l'histoire d'abord, je raconte l'histoire. C'est Madame Brownie Ware, une infirmière australienne ayant exercé toute sa carrière en soins palliatifs, a consigné les 5 plus grands regrets des vieux aînés qui ont dépassé l'âge de croire qu'ils allaient pouvoir réaliser ce qu'ils regrettent de ne pas avoir fait. En un mot, ce n'est pas nous, c'est justement eux, c'est-à-dire qu'il est vraiment trop tard pour eux pour pouvoir les réaliser. Alors je me demande si c'est pas justement à nous de les réaliser pour eux.
Oh wow.
Alors voilà les 5 reproches qu'ils se sont faits à eux-mêmes et qu'elle a le plus souvent entendu de la bouche de ses patients. Parce que finalement, donc, ça prouve qu'on se reproche toujours quelque chose et qu'on a toujours une petite culpabilité quelque part. Mais vous, vous n'êtes pas dans cette situation, bien sûr. Et je vous souhaite des vacances en pleine forme. Et je vous propose de profiter du temps libre estival pour agir avant qu'il ne soit trop tard pour vous aussi. Le premier reproche que se font les gens, c'est « J'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. » Mais oui, commandez là cette deuxième pinte de bière. Vous jouerez plus longtemps au ballon demain sur la plage. Et pour la sobriété, vous vous rattraperez au retour de vacances. Le reproche numéro 2, c'est « Je regrette de ne pas avoir gardé contact avec mes amis. » Je vous rappelle que le 10 août, c'est la journée mondiale de l'échangisme. Donc, gardez le contact avec vos amis.
Mais qu'est-ce qu'on appelle l'échangisme? Parce que dans mon esprit, l'échangisme, c'est pas très amical. Je veux dire, c'est beaucoup.
Pourquoi pas amical? Ça peut être dans les... ça peut être tout à fait amical.
Mais vous pensez que l'échangisme, ok, d'accord.
Ah, je pense que ça peut être tout à fait dans un esprit amical.
Oui.
Prévoyez un dîner avec des amis un peu perdus de vue et renouer, enfin, vraiment dans l'amitié la plus complète.
C'est vrai, c'est vrai.
J'aurais voulu avoir le courage d'oser exprimer mes sentiments.
Ah oui, ça c'est affaire. Alors aujourd'hui même, mes chéris. Hein.
Mais
oh là
oui.
Là.
Alors profitez des effets de la deuxième bière et dites tout le bien que vous pensez d'elle ou de lui à votre voisin ou votre voisine, sur la plage.
Et le mal aussi? Est-ce qu'on peut se faire du bien?
Vous pouvez aussi vous faire du bien en disant du mal, c'est ça?
C'est parce qu'il y a des fois où voilà quoi. Hein?
Alors je regrette d'avoir travaillé si dur. Laissez-vous aller. Reposez votre QI. Les vacances sont faites pour ça. Hein, l'on baisse son QI en vacances. Mais il faut le laisser tranquille, ce QI. Prenez vos résolutions maintenant, à tête reposée. Vous êtes à tête reposée. Et c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions les plus sages. Pas dans le brouillard le 1er janvier au réveil.
Ah, c'est vrai, ça.
J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi.
Ça, c'est terrible, ça, comme regret.
Alors,
ça, c'est terrible.
Oui, c'est affreux. Hein.
Ah, ça c'est ouf.
Alors, au diable les conventions et hop, enlevez vos maillots.
Tout nu et tout bronzé.
Alors j'ai une dernière petite remarque. Oui. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est une très 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 bonne chanson,
ah oui,
bien
oh, non,
entendu.
Mais, attends,
c'était un hit, hein, d'ailleurs.
Ah oui, oui, absolument, oui.
Alors, il y a une petite remarque qui est très intéressante, justement. Oui. Bon, ça, c'est d'un point de vue regret. Regret, justement, au point de vue sexuel, de vie sexuelle. Alors on a fait une petite...
Moi je vais sortir parce que... Allez-y,
non,
allez-y. Non, allez-y.
Reste là.
Bien sûr. Alors,
dernière petite remarque. Donc, c'est une petite statistique légère et rapide qui n'a aucune prétention scientifique, bien sûr,
mais
qui est quand même quelque chose qui a été fait sur un grand nombre sans... Il n'y a pas eu de randomisation ni quoi que ce soit, mais ça a été fait. Bon. On donne le choix entre faire plus l'amour ou mieux l'amour. Est-ce que vous auriez préféré faire plus ou mieux l'amour? Et alors, les femmes ont dit plus à un tiers et mieux deux tiers. Et les hommes, plus deux tiers, et les femmes, et mieux un tiers. Est-ce que ça vous étonne?
Ah, c'est vraiment super. C'est quand même incroyable. Hein. Et comme quoi.
C'est très curieux. Ça correspond à ce qu'on imagine, hein, quand même.
l'abeille qui danse dans le vent, elle semble si légère. C'est l'été, au bout d'enfance, un parfum d'indifférence. C'est le temps des idées folles ou sages de l'inconstance. Les vacances en plein soleil, la musique qui se réveille et la danse. Pareil, qui nous sauverait un long sommeil. Les vacances en plein soleil, la musique qui se réveille, langoureuse nous émerveille et nous plonge en plein soleil, en plein soleil, en plein soleil.
Nous venons juste d'entendre Eva Ameisen qui a chanté Un jardin dans la lumière. Eva Ameisen qui est une femme, qui, une Française qui est arrivée ici il y a maintenant 7 ans et qui après une carrière de médecin s'est lancée presque professionnellement dans la chanson. Elle s'est produite un peu sur les scènes et elle a sorti ce disque, Eva Ameisen, qui est un disque plein de nostalgie, qui est un disque de chansons très françaises, avec beaucoup de... un peu le style légèrement Barbara, mais toujours ces chansons à texte.
On peut se le procurer où et comment, ce disque-là?
On peut l'avoir sur Spotify.
Il est sur Spotify.
Voilà, donc on peut très bien se le procurer à cet endroit-là.
Eh bien, on est dedans. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on fasse de la pub en disant « On peut trouver ça sur Spotify ». Vous l'écrivez comment, ce nom?
Ameisen, c'est A-M-E-I-S-E-N. Alors, on dit Ameisen. On peut dire Ameisen ou Amazing. Amazing,
amazing.
C'est encore mieux d'ailleurs.
Ouais, c'est
A-M-E-I-S-E-N.
Ça vient d'où, ça?
C'est un mot allemand qui veut dire les fourmis.
Ah, Ameisen. Ah.
Ameisen, c'est la fourmi. Ameisen, c'est les fourmis.
Okay.
C'est joli.
Ben oui, absolument.
Et pourtant, elle chante. C'est une cigale.
Bravo. Bon, bravo, François. François Baruel, qui partage cette émission avec moi. Je m'appelle Clotilde Seuil, pardon. Et vous écoutez M l'été. C'est un festival de bourdes. Et nous sommes à Canalem. Et on se retrouve en seconde demi-heure avec qui? Ah ben oui, on s'en va à Rimouski. Et on s'en va rejoindre sur la route de Rimouski, Patrice Cocro, qui, chaleur ou pas chaleur, continue à marcher jour après jour après jour. Jour après jour.
Vous écoutez Aime l'été. I knew you.
tiré de son album Songs from the Last Century, chanson du siècle dernier, album qui est sorti incidemment le siècle dernier en 1999. C'était George Michael qui reprenait ici cette grande chanson qu'on aurait tous reconnue à l'origine faite par The Police en 1978,
ouais.
Roxanne.
Ah, c'était... J'en aurais pris encore! Mais vraiment, non, oui, très agréable. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Si tout va bien, nous allons maintenant partir pour Rimouski, où nous attend Martine Proulx. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, vous savez qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui marche vers vous à Rimouski, qui s'appelle Patrice Cocro.
Ah oui.
Êtes-vous au courant de ça? Parce que il sera notre invité juste après.
Oui.
Alors là, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu. Je pense qu'il est à mi-chemin à peu près.
Je ne pourrais pas vous dire. J'ai entendu parler effectivement de son expédition, mais non, je ne sais pas où il en est maintenant.
Alors en préambule, nous, on s'est dit, allons voir un petit peu avec Martine ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prendre l'air facilement? Est-ce qu'il y a à Rimouski et dans les entourages, dans les alentours, est-ce qu'il y a des promenades accessibles à tout le monde, notamment, Martine?
Oui, tout à fait. Et justement, on parlait de marche et de marcher à la rencontre des Rimouskois et aux endroits où les Rimouskois se rencontrent. Alors, effectivement, c'est l'objet de ma chronique aujourd'hui, si on peut dire. Donc, je vais vous parler, entre autres, de trois types d'aménagements. Il y a, bien sûr, comme dans la plupart des villes, un parc urbain qui est aménagé pour le bénéfice et le plaisir des citoyens. Donc, à Rimouski, c'est le parc Beau Séjour qui est aménagé sur une des rives de la rivière Rimouski et où on peut pratiquer évidemment une variété d'activités de plein air, sportives et culturelles aussi, selon les saisons. Donc, il y a effectivement des sentiers de randonnée pédestre, certains asphaltés, d'autres en gravier. Donc, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite, là, en partie. On peut, entre autres, sur ces sentiers, bien sûr, faire du patin à roues alignées, de la bicyclette. Il y a des modules de jeux pour enfants, des jeux d'eau. Et le parc est très animé d'un point de vue culturel. Tout l'été, tous les dimanches de l'été, c'est des pique-niques musicaux avec différents artistes invités. Il y a aussi une programmation d'activités de spectacles pour enfants au public familial. Ça, c'est des lundis soirs. Donc, c'est comme dans toutes les villes, un parc où les gens se rassemblent pour venir soit pratiquer une activité sportive ou soit simplement pour se prélasser, se détendre. Mm-hmm. La particularité de notre parc, c'est qu'il y a tout au long de la rivière également une installation de sculptures monumentales, environ une dizaine de sculptures monumentales qui ont été réalisées par un artiste rimouskois, Roger Langevin.
Quand on dit monumental, excusez-moi, on parle d'une taille assez importante, évidemment.
Ah oui, tout à fait. Mon Dieu, je ne pourrais pas vous dire, là, mais c'est au moins 15-20 pieds de haut. Là.
On ne peut pas repartir avec.
Ce sont des sculptures. Là. C'est une installation donc d'œuvres d'art public qui est une initiative de cet artiste Roger Langevin, qui était également professeur d'art à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski. Et donc, c'est un de ses projets qu'il a voulu faire comme legs à la ville de Rimouski. Donc, c'est intéressant de s'y promener dans ce parc parce qu'il y en a pour tous les goûts. Mm-hmm. Puis, même chose l'hiver également. Évidemment, il y a des activités possibles l'hiver. Mais bon, là, on est en saison estivale. C'est la belle saison. Ben on en profite. Et puis, c'est un endroit justement pour rencontrer les Rimouskois.
Est-ce qu'on peut sortir son chien?
Tout à fait.
Mais je demande parce qu'il y a tellement de parcs au Québec qui sont interdits aux chiens. Je pense à la Chine, sur les abords du canal de la Chine.
Même en laisse,
en tout cas. C'est pour ça que là, je demande, est-ce que c'est possible, Martine?
Oui, tout à fait. Les animaux en laisse sont acceptés.
Bon.
Et évidemment, l'accès au parc est gratuit. Voilà. Et puis donc, dans la ville, dans le fond de Rimouski, incluant le parc Beau Séjour, on a à peu près un réseau là, de 30 kilomètres de sentiers de divers niveaux et ils se connectent les uns aux autres, ces sentiers-là. Donc, le parc Beau Séjour et ses quelques 10 kilomètres de sentiers de randonnée et de vélo se connectent ensuite aux sentiers du littoral, qui sont tout près, donc sentiers du littoral et de la rivière Rimouski. En fait, c'est trois sentiers d'environ 5 kilomètres chacun. Mm-hmm. Bon, il y en a deux qui sont un peu plus sportifs, là, si on peut dire, parce que, bon, c'est vallonneux. Alors, c'est davantage pour le vélo de montagne ou pour les piétons. Et en hiver, c'est accessible pour la raquette, le ski de fond. Mais il y a un sentier qui est magnifique et qui est très populaire, qui s'appelle le sentier du littoral. Et lui, il longe bel et bien le fleuve et les marais salés. Et c'est accessible aux personnes à mobilité réduite, parce que le sentier, en bonne partie, il y a à la fois des passerelles de bois et il y a du gravier, mais vraiment bien tapé, là. Donc, c'est très bien accessible aux fauteuils roulants. Et c'est magnifique, évidemment, parce qu'on longe le fleuve. Il y a des panneaux d'interprétation du paysage, du patrimoine aussi local, et aussi des panneaux pour l'observation des oiseaux. Et une autre des particularités de ce sentier-là, c'est qu'il y a une portion qu'on appelle la randonnée poétique.
Oui.
Alors,
c'est magnifique.
Ça,
c'est une initiative du Salon du livre de Rimouski, qui, depuis une quinzaine d'années, a fait installer à la mesure là, d'une pierre par année, donc d'énormes pierres qui pèsent à peu près une tonne chacune. Et sur chacune de ces pierres, qui sont échelonnées tout au long du sentier, sont gravées des citations d'auteurs québécois. Il y en a de la région, mais il y a aussi d'autres auteurs. Bon, évidemment, il y a Gilles Vigneault, il y a Joséphine Bacon, Hélène Dorion, Victor Lévy-Beaulieu. Donc voilà, il y a une dizaine de ces pierres avec des citations à connotation justement poétique. Et l'intention était de se lier avec le paysage, avec ce magnifique paysage de fleuve là, que les gens ont sous les yeux en parcourant ce sentier.
Alors justement, le fleuve, parlons-en. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que vous nous parliez de la promenade de la mer et du brise-lames de la rivière Rimouski.
Oui, donc avec le sentier du littoral, on fait le lien au brise-lames. Donc, le brise-lames, en fait, c'était un ancien quai qui était là et qui était, bon, un peu, qui a été laissé à l'abandon. Mais il y a quelques années, il y a 4 ans, si je ne m'abuse, la ville de Rimouski l'a fait réaménager. On appelle ça un brise-lames parce qu'évidemment, ça vient...
Les vagues viennent...
Couper les vagues parce que c'est à l'endroit où la rivière Rimouski se jette dans le fleuve. Mm-hmm. Et donc, ce brise-lames-là a été aménagé avec du mobilier urbain, des bancs, des aménagements paysagers pour un endroit où se détendre et puis admirer le paysage.
Sur combien de distance à peu près,
Martine? Bien, ensuite, là, du brise-lames, effectivement, commence ce qu'on appelle la promenade de la mer. Ah. Elle s'échelonne sur un peu plus de 4 kilomètres. Et donc, on est vraiment au cœur de Rimouski, c'est vis-à-vis le centre-ville de Rimouski. Et c'est une promenade, des portions, justement, de pavés de bois et ou alors de d'asphalte. Mm-hmm. Et c'est accessible autant aux piétons qu'aux cyclistes, aux fauteuils roulants, aux patineurs à roues alignées. et cette promenade-là, elle est accessible à l'année. C'est-à-dire que durant l'hiver, la ville de Rimouski déneige la promenade.
Ah, c'est chouette. Ouais.
La ville de Rimouski a une tradition maritime quand même, donc
Et cette promenade-là, justement, tout au long de la promenade, il y a des panneaux d'interprétation qui rappellent l'histoire maritime de Rimouski, la navigation, les stations de pilotage. Et on parle aussi, bien sûr, de la faune qu'on peut observer, parce que à cet endroit, vis-à-vis Rimouski, on voit, il y a une héronnière, en fait.
Des grands hérons.
On voit les grands hérons à tous les jours. Ouais. Et bon, au printemps et à l'automne, donc il y a les bernaches et il y a les oies blanches aussi qu'on peut observer. Ouais. Donc c'est un endroit magnifique, qui est très fréquenté par les Rimouskois. Donc là aussi, une autre occasion de rencontrer les gens de la place, comme on dit.
Sans compter qu'on peut les rencontrer aussi sur les terrasses. Vous avez une rue piétonnière à Rimouski?
Ben, en fait, elle n'est pas piétonnière à l'année, mais à ce moment-ci de l'été, effectivement, la rue Saint-Germain, qui est une autre partie là, du centre-ville de Rimouski, elle est piétonnière et donc les restaurants, les commerçants, les bars descendent dans la rue, installent des terrasses ou des kiosques. Et puis, il y a de l'animation différente là, à chaque jour.
Est-ce qu'elle est assez longue, Martine?
Ah, bonne question. En distance, bon, c'est moins d'un kilomètre.
Bon,
c'est pas très, très long. c'est concentré.
C'est déjà suffisant pour se promener, se rencontrer,
oui, prendre une
prendre
bonne,
une bonne
de bière.
Pinte de bière en été.
Exactement. Oh oui, j'y suis allée en fin de semaine et puis c'était bondé de gens.
Ah, j'imagine.
C'était agréable. Il y avait de l'animation, oui, de la musique, des arts,
wow,
du cirque. Ça fait du bien.
Bon, Martine, c'est toujours un bonheur de vous entendre parler de votre coin de région. On vous remercie, François, et moi-même, et ainsi que tous les auditeurs, de nous donner vraiment envie de découvrir ou de redécouvrir un Rimouski.
Ah,
oui. Merci beaucoup, Martine, et on va peut-être se reparler à l'occasion un de ces jours.
Je crois que la semaine prochaine, on se reparlera à nouveau. Ben, c'est un grand plaisir pour moi, puis au plaisir de vous rencontrer, peut-être.
Ben, en studio, ce serait le fun. Bonne journée.
À vous également. Au revoir.
Plus loin encore dans les contrées, jusqu'aux confins de ma pensée, la route baptise comme un prophète. Je m'agenouille à son chevet. Dans les forêts éternelles, je quête aux arbres des vérités qui ne meurent pas sous le soleil, des vérités sauvages et belles. Le soleil doucement se prosterne sur l'océan, les séquoias sont les géants qui ouvrent les portes de l'enchantement. Et je capitule enfin par l'extase dans un vieil hôtel usé, avec l'espoir de partir demain. La valise pleine d'histoires pour découvrir au matin dans pèlerin sur un vieux trottoir usé où des routards fatigués traînent un rêve pour seul bagage. Les pianos se déchaînent jusqu'aux oreilles des poètes et par une faille du temps se glisse un air d'éternité. Et je capitule enfin de partir demain. La valise pleine d'histoires pour découvrir au matin dans la lumière embrasée le clin d'œil amusé d'un splendeur déchirée vers des terres immortelles où délacées mes bottes usées. Je marcherai au bout du monde jusqu'aux montagnes vagabondes, suivant le ressac des visages qui échouent sur le rivage.
Elle s'appelle Émilie Klepper, est tirée de son album Émilie Klepper et La Grande Migration, excellent album qui est paru l'an dernier sur l'étiquette La Tribu. On vient d'entendre la pièce Sur la route.
Oh, sur la route, justement, oui, cher Jean-Sébastien.
Bien. Bravo.
Quel à propos. Patrice Cocro, hein, quel à propos quand même, une chanson qui s'appelle Sur la route. Alors que vous, Vous errez sur la route jusqu'à Rimouski. Depuis combien de temps, Patrice Cocro? Rappelez-nous ça.
Bonjour, Christine.
Ça va bien?
Oui, ça va très, très bien. Je suis parti le 11 juillet dernier de Longueuil. Et là, aujourd'hui, on est donc le 30 juillet. Je suis à Lévis. Aujourd'hui et demain, je traverse Lévis quand même, qui est assez étendu, comme dit.
Oui.
Alors, c'est ce que je fais. Et bon, il fait chaud. Oui, je m'hydrate. Oui, je n'ai pas d'ampoule. J'en ai une.
Ça y est, c'est réglé? C'est réglé?
Je dors très bien. Je mange bien. Le moral est excellent. Les rencontres sont merveilleuses. Alors, tout se passe très bien.
À tout hasard, on va vite passer là-dessus, mais je voudrais quand même, si des gens nous écoutent et ne savent pas ce qu'un comédien, auteur, conférencier comme vous fait sur les routes en ce moment, voulez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît?
Oui, d'accord. Alors, j'ai un projet TV dans mes cartons dont le sujet serait l'anxiété. Le projet est déjà travaillé comme tel, mais pour attirer l'attention et en fait, d'une certaine façon, démontrer s'il fallait encore le faire, que l'anxiété est un mal omniprésent qui touche beaucoup de monde et qui, donc, du coup, pourrait y avoir des cas d'écoute assez intéressantes. Eh bien, l'idée pour moi, c'est de rencontrer des gens chez lesquels je suis hébergé et même sur la route. Mmh. Les gens, je récolte des témoignages sonores ou visuels à propos de l'anxiété. Voilà, donc j'ai dans mes bagages beaucoup, beaucoup de témoignages. Et au terme de ce voyage-là, j'ai recueilli aux portes des diffuseurs, mais là, déjà un producteur qui est intéressé tout de même au projet. Donc voilà.
Est-ce que vous avez déjà des anecdotes ou au moins des témoignages intéressants qui pourraient être
partagés
aux éditeurs?
C'est-à-dire que pour l'instant, les témoignages, je les garde en privé parce que j'attends un go. Mais sauf que je peux vous dire que dans l'ensemble, j'ai vraiment des choses assez bouleversantes. Et il y a des gens encore hier, une jeune fille que j'ai rencontré à Saint-Nicolas, qui disait qu'il souffrait de TOC, qui est un des aspects de l'anxiété, puis qu'elle en souffrait beaucoup et que ça l'a handicapée, mais qu'elle était en démarche et en voie de résolution très lentement, parce que chacun, on le sait, résout ce problème à son rythme. Et voilà. Mais c'est vraiment un problème très, très omniprésent.
Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ignoriez? Parce que vous ne vous en cachez pas, hein, Patrice, vous-même, vous avez connu l'anxiété, des périodes d'anxiété majeures. Vous dites aussi que vous vous en êtes sorti. Est-ce qu'il y a encore, peut-être nous en dire un petit peu plus, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui vous ont complètement sidéré dans le domaine de l'anxiété et que vous ignoriez?
Pas vraiment. Je dirais que en termes d'expérience unique ou d'intensité, oui, il peut y avoir des trucs assez incroyables, comme par exemple une femme qui m'a confié qu'une de ses amies, la fille d'une de ses amies, qui a 12 ans, s'est pendue suite à parce qu'elle souffrait d'anxiété majeure et qu'elle se sentait isolée. Alors ça, on entendait parler. Mais c'est vraiment criant. Donc, chez les jeunes, je savais que c'était très important, mais ça augmente, semble-t-il. Cela dit, en fait, je suis pas vraiment étonné. Je suis davantage touché par le fait d'être conforté ou confirmé dans le fait que tout être humain, à la base, a les mêmes besoins de se réaliser, de se sentir utile, de vouloir se déployer, tout ça. Mais qu'en même temps, en contrepartie, à cause du conditionnement, de l'éducation, des dogmes et des peurs, surtout beaucoup de gens se sentent enfermés et n'osent pas faire le premier pas, qui est souvent le plus difficile, donc de s'affranchir du regard des autres et d'aller au-delà de l'étiquette qui nous est souvent accolée et de faire le premier pas pour se libérer de ces troubles-là et bon afficher ses couleurs et ses difficultés parce que on vit beaucoup dans un monde d'image et de performance et d'apparence.
Vous avez parlé tout à l'heure de TOC chez une jeune fille. Ça m'a fait penser justement au TOC, la crise d'angoisse, crise de panique. Je voulais vous demander si vous aviez, vous, été sujet aux crises de panique lorsque vous étiez jeune, plus jeune.
Oui, crise de panique majeure, absolument. C'était la même de la psychose et tout ça. Alors
c'est lorsque vous aviez mal réagi à un joint.
Un joint, exactement. J'ai mal réagi au THC. Et donc, ce qui était évident ne l'était plus. Alors, mon quotidien, il a fallu que je réapprenne à prendre le métro, à prendre la voiture, à monter dans un ascenseur, peu importe, à reprendre l'avion. C'était extrêmement difficile. C'était de réapprendre tout ça. Mais oui, des attaques de panique, ça m'est arrivé sur scène. Ça m'est arrivé partout.
Sur scène?
Oui, sur scène. Et apparemment que ça ne paraissait pas, étonnamment, mais... Bon, j'avais bien travaillé mes trucs, j'avais fait mes devoirs, mais dans des circonstances, fréquemment, Et je sais ce que c'est. Alors, je sais à quel point c'est extrêmement douloureux, souffrant, et paniquant. Et
difficile à dire.
Souvent, oui, puis en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'en voit pas l'issue. Souvent,
mais c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Parce que c'est comme si vous tiriez sur une sonnette d'alarme, puis que vous entendiez l'alarme, mais vous ne saviez pas comment arrêter.
Oui, ou qu'il le signal,
restait,
oui.
Ou qu'il vous restait
oui.
le poignet dans la main.
Oui, parce que c'est fou qu'on soit, à la limite, obligé de prendre comme ça la route pour dire aux gens, regardez, ça existe, mais oui, on peut s'en sortir. Parce que l'anxiété, oui. souvent, c'est pas pris au sérieux. On s'entend, Patrice Cocroix.
Non. Ben, en fait, beaucoup de gens... En fait, ça commence à être de plus en plus vulgarisé, mais il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est... Bon, ben, t'es fatigué, repose-toi, reprends-toi en main, ou je sais pas, mais c'est des phrases toutes faites.
Oui, ça veut rien dire, ça.
Comme type de réponse, parce que les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre.
Oui, oui, donne-toi un coup de pied aux fesses, voilà.
Ouais,
c'est ça.
Caprice, ou, bon, alors que quand on le dit, on comprend que c'est tout autre chose.
Autant dire à un diabétique, justement, arrête de faire monter ton sucre.
Oui,
c'est vraiment ça, en fait.
Exactement.
Patrice, on a une bonne nouvelle pour vous.
Ah.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? J'ai très hâte de la déballer.
Alors, je le sais pas. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous téléphone. Restez près de votre téléphone. Mais à mon avis, il y a un livre audio qui va sortir prochainement.
Oh, c'est formidable.
Alors, restez près de votre cellulaire parce que je pense que vous allez recevoir et je voulais vous le dire comme un cadeau qu'on avait envie. Alors, faut que ce soit. J'espère que ça va vous permettre peut-être de franchir un peu ce mur de chaleur que vous traversez tous les jours. D'ailleurs, on se demande comment. Je sais vraiment pas comment vous faites. Est-ce que vous vous accordez une petite bière, quelque chose le soir?
Petite bière, mon minou. Je dirais une petite bière, mon minou.
Deux petites bières, mon minou?
Oui, c'est ça. Oui, bon. il y a des pauses. Mais c'est pas une course. Hein. Je répète aux gens, c'est une course.
Non, c'est ça.
Je prends des pauses. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent le long du chemin, qui me parlent. Alors, c'est vraiment, je respire dans tout ça.
Bon. Allez aller à Rimouski. Vous savez qu'on vient de parler il y a quelques minutes avec une personne qui s'occupe beaucoup de tourisme et d'accessibilité à Rimouski et dans la région. Eh bien, c'est un régal, hein, cette ville-là. Est-ce que vous la connaissez déjà? Oui?
Oui, parce que mon neveu vit dans cette ville et je suis allé souvent en tournée. J'ai sillonné quand même beaucoup le Québec, donc je connais très très bien tous les endroits où je vais aller et j'aime beaucoup Rimouski.
Bon, Patrice, c'est un rendez-vous. Préparez-vous quand même. Je sais que vous ne pouvez pas tout nous dire, mais quelques petites anecdotes pour la semaine prochaine, ça fera toujours plaisir à nos auditeurs.
D'accord. Ah! Je vous remercie de cette tribune, de cette antenne, et je vous salue. Et voilà.
Mais c'est normal, Patrice. On apprécie beaucoup ce que vous faites, et nous, on est de tout cœur avec les gens qui souffrent d'anxiété, qui le disent, et surtout ceux qui ne le disent pas.
Oui, exactement. Voilà.
Allez, Patrice, bonne route à
et
Lévis.
Bon pied, bon œil.
Oui, merci.
Salut,
et à la semaine
prochaine. Salut. Ah, on l'aime beaucoup, hein, ce Patrice Cocroux, là. Moi, j'aime beaucoup ce type. Et ça me fait vraiment plaisir de mieux vous le faire connaître, François et tous les auditeurs. Restez des nôtres sur Canal M, c'est l'émission M l'été. Dans la dernière partie, on va aller rejoindre Emmanuelle Robitaille, en fait, qui va venir, elle, nous rejoindre pour nous présenter un autre biais cognitif, mais je vais lui laisser le soin de le faire elle-même. Elle le fait de façon tellement délicieuse. Et puis ensuite, on ira faire un tour à Orford, où le Festival d'Orford de musique 2019 a lieu en ce moment, jusqu'à la mi-août.
Mi-août.
Restez avec nous.
Vous écoutez M l'été.
Je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. J'ai abordé mes clés dedans mon char sur le banc du passager. Et
leur regard, puis tu me donnes des remords. J'en suis désemparé quand une belle fille va passer. Sur le hood, je vais m'accoter, les mains dedans les poches, comme si j'étais bien relax, que j'avais du temps à tuer. Mais je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Puis y'a toujours un gars qui connaît ça, les Honda, qui traîne toujours un support. Puis par en dessous du rubber, il va taponner sans compter les heures. Puis il est pas question qu'il lâche sa mission, même s'il est en Simonac. Persévérance d'un homme de Cro-Magnon quand l'orgueil de mort l'embarque. Mais je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Où ça? Dans un parking de centre d'achat. Encore? Dans un parking de centre d'achat.
Bonjour Emmanuel Robitaille.
Bonjour Clotilde, bonjour François.
Bonjour Emmanuel.
Il ne se pouvait plus, lui. Hein.
Il y avait hâte.
Elle arrive quand? Elle arrive quand? Elle arrive quand? Oh, lâche-moi, elle va venir.
Je suis là, je suis toujours là.
Alors, un billet de biais.
Le biais de biais, effectivement, c'est la chronique qui parle de notre cerveau, non pas notre cerveau anatomique, mais comment il fonctionne sur un plan plus psychologique. Comment il fonctionne des fois aussi pas super bien. Parle de biais cognitif. Et qu'est-ce qu'un biais? On se le rappelle, c'est des raccourcis qu'on prend dans notre cerveau pour analyser des choses. En fait, le problème, c'est que ça passe pas par un processus qui est analytique ou rationnel, mais ça a la prétention de vouloir le remplacer. Ce qui fait que ça nous donne des lectures de la réalité complètement fausses, ça nous fait tirer des conclusions biaisées, comme dit le terme « un biais ». Mm-hmm, cognitif. Mm-hmm, mm-hmm. Et pourquoi on utiliserait ces biais s'ils nous mettent dans la chenoute? Je t'entends, j'entends ta question. Et bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous, les humains, parce que c'est tout le monde qui les utilise, plusieurs raisons pour lesquelles nous, les humains, on utilise des biais cognitifs dans nos analyses des choses. Soit qu'on manque de temps pour émettre un jugement qui est plus long, qui est plus analytique, soit qu'on manque d'intérêt pour bien le faire, soit qu'on manque d'informations sur le sujet analysé, ou encore qu'on manque littéralement de capacité analytique. De capacité cognitive pour le faire. Ou encore parce qu'on veut se protéger, se préserver. Bref, parce que ça fait émotionnellement et moralement notre affaire.
Bien.
Et cette semaine, le biais au menu. Le biais de statu quo.
Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça?
Mais ça donne un petit indice, quand même.
Oui, bah, oui, mais statu quo, oui, mais... oui, c'est OK, ça. C'est... Oui.
On sait pas ce qu'on... On sait, pas, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on aura.
Genre, oui,
c'est
d'accord.
Mais c'est pas bête, qu'est-ce que tu dis, François. Ça se rapproche de ça. En fait, le biais de statu quo, c'est la tendance à préférer les choses, laisser les choses telles qu'elles sont.
Voilà, c'est ça.
À maintenir une situation dans son état actuel plutôt que d'opter pour un changement avec de nouveaux éléments qui viennent s'incorporer. Mm-hmm. Ce changement-là apparaissant comme comportant plus de risques et d'inconvénients que d'avantages possible. Nécessairement que ce n'est pas toujours à notre avantage, parce que quand on prend des décisions, la décision a de grandes chances, grandes chances d'être, de rester à la même place et de rien changer, ce qui est une décision complètement biaisée. Mais pourquoi on fait ça?
Ah ben alors là, c'est la protection totale. Encore une fois, plutôt que de passer pour un imbécile, on va faire « Non, c'est très bien comme ça.
» Et puis non, tout changement, vraiment... c'est mal.
Hein? Ben oui.
La résistance au changement étant la première... Mais pourquoi sommes-nous résistants au changement? Mais là, je vais aller avec ce que tu as nommé tout à l'heure, François, qui ressemble un petit peu à ça également. On veut minimiser les pertes plutôt que de prendre la chance de gagner plus que ce qu'on a actuellement, ce qui est très, 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 très sécuritaire, on va se le dire.
Redis-moi ça, on veut minimiser les pertes plutôt...
Que prendre la chance de gagner plus.
Ben oui. Ben oui, ben
on aime mieux avoir ce qu'on a là, puis de prendre la chance d'avoir plus, plutôt que... On pense plus à ce qu'on peut perdre.
On n'aime pas le risque.
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
En fait, c'est
je te suis, hein?
Un évitement de risque.
Exact. Exactement. Et la résistance au changement, tu l'as bien mentionné, François, parce que dans le changement se cache souvent l'inconnu. Et le cerveau, quand il ne sait pas quoi qu'il va y avoir, donc dans l'inconnu, dans « ne sait pas », il a tendance à remplir des vides, à se faire des scénarios, à vouloir trouver des explications, à donner un sens à tout, même quand il manque des informations. Et par rapport à ça, on a fait des tests, hein, d'ailleurs. On présentait des dessins à des gens. Un tracé, donc un contour, qui était un lapin à la base, mais avec toutes des lignes discontinues. Et les gens disaient « c'est un lapin ». Alors que le cerveau est capable de remplir les vides, les lignes, et de déduire qu'il y a un lapin de dessiner. Mais au final, la réalité est que ce sont un paquet de lignes discontinues. C'est juste que notre cerveau imprègne, remplit et renvoie ce qu'on connaît le plus.
C'est ça.
On se comprend?
Oui, on se comprend très
non
bien.
Non seulement ce qu'on connaît le plus, mais également, on a vu le biais de négativité qui sert à nous protéger. Le biais de négativité qui dit on va plus remarquer, on va plus noter, on va plus se rappeler les choses négatives que les choses positives. Pourquoi? Pour se préserver, pour se protéger, parce qu'il faut que je vois plus une alarme qu'un muffin. Non, mais tu comprends-tu?
Oui.
Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on fait ça. Donc, on se pose pas de questions. Quand on est devant l'inconnu, on va mettre du négatif et on va se dire clairement ce qui est en avant de moi est moins bon que ce que j'ai là pour être sûr de se protéger. Donc, on va faussement déduire que autre chose va être plus négatif et on choisit le statu quo. C'est le fun, hein? On est bien fait.
En fait, c'est les élections. Les élections, c'est ça, hein? C'est un nouveau président, un nouveau premier ministre. Hein?
Exactement.
C'est ça, en fait.
Et des exemples, il y en a des millions. Il y en a autant qu'il y a d'humains, qu'il y a de secondes, d'une journée. C'est quasiment la nature humaine.
Mais en plus, l'impression sur le cerveau, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est vrai pour la parole, c'est vrai pour l'œil, c'est vrai pour... on renvoie au cerveau qui imprime.
Mais tout à fait. Le problème aussi, c'est que plus on fait ça, moins on a de chance d'aller s'invalider. On va toujours rester dans le statu quo, donc jamais on va se donner l'occasion d'aller voir et de vérifier si finalement on avait changé, si c'était positif, et de changer ce chemin-là qu'on connaît.
Donc on reste dans le confort.
Des exemples, on en a parlé, et la fameuse relation amoureuse. Ça, c'est le classique, hein, je veux dire.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'est mieux que n'importe quel autre qui peut venir après, meilleur aussi que la solitude du célibat qui va suivre. Et d'ailleurs, le biais de statu quo peut augmenter la peine d'amour et augmenter les difficultés à se remettre d'une séparation si on entretient cette croyance-là qu'il n'y a rien de mieux ailleurs ou après. Clairement, c'est un petit peu plus dommageable et peurant et difficile à traverser que si on était positif.
Et du coup, on va faire des compromis.
Voilà.
Non, mais c'est vrai.
On peut. Ça peut
les fameux compromis, ça vient
de
là, non?
Ça peut s'empêcher de divorcer, peut empêcher de se séparer. Ça nous fait vivre des émotions extrêmement plus fortes quand il y a des changements qui s'imposent à nous. On est obligé des fois, là. Il y a des choses qui changent. C'est pas toujours... Des fois, notre conjoint va choisir de nous laisser. Bien là, à ce moment-là, le biais de statu quo va nous amener beaucoup plus de stress et d'émotions négatives, peut-être que nécessaires. Donc, ça nous aide pas beaucoup, on va se le dire. Et des choses super banales. Jamais changer de compagnie de téléphone. Est-ce que mes céréales, c'est encore ma sorte préférée ou c'est parce que j'achète ça, ça fait 17 ans? On a cette tendance à ne pas remettre les choses en question. C'est vrai, hein? Que faire?
Oui!
De que se faire avec tout ça?
Oui!
Parce qu'on a toute une situation ici en tête où on ne veut pas bouger, hein? On le sait.
Ça demande énormément de dynamisme et d'audace.
De dynamisme? D'audace, et je te prends, au moins, j'agrippe ce que tu viens de dire, il ne faut pas, je dis tout de suite, attention, alarme, attention à ne pas tomber non plus dans le biais pro-innovation.
C'est ça, oui.
Qui s'oppose au biais de statu quo et qui prône la nouveauté, le changement coûte que coûte, c'est pas mieux.
C'est la semaine prochaine, ça?
Non.
Bon.
Donc, s'avouer sa résistance au changement, savoir que... Pas le prendre trop personnel, hein. Ça, c'est tout le monde. C'est pas juste nous. C'est juste bon de le savoir et volontairement voir ce qu'on veut pas changer depuis très longtemps et apporter des changements nécessaires et commencer par des petites choses sans conséquence. Changer le bord du salon, hein. Changer les meubles de place.
Oui, c'est vrai.
C'est sans conséquence. Et pas trop se fier à notre première réaction quand il y a un changement potentiel. Juste se dire qu'on est peut-être en train de surestimer les risques ou sous-estimer les gains potentiels. Et se connaître aussi, hein, savoir, on est-tu conservateur, on est-tu curieux et prendre des choix prendre des décisions et faire des choix en fonction de qui l'on est et non pas via les biais.
Merci beaucoup.
Merci.
Emmanuel, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
De son album Oscar Peterson Plays Porgy and Bess. On vient d'entendre la pièce Summertime qu'on aura sans doute reconnue assez facilement.
C'est bon, mon petit Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Pourquoi Oscar Peterson? Ben parce qu'il en sera question, il en est question d'ores et déjà au festival Offered Music 2019. D'ailleurs, on va rejoindre tout de suite son directeur général et artistique, Wani Song. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais nous allons très très bien, surtout lorsqu'on se déplace dans votre coin de pays et qu'on entend parler de ces magnifiques concerts qu'année après année, vous proposez, gratuitement ou non, à votre public de plus en plus large, hein, je pense.
Absolument, c'est vraiment une très belle année cette année. Nous sommes dans l'Italie.
Oui, hein?
Oui, apparemment.
C'est, oui. Alors, nous avons nous voulons faire hommage au grand Leonardo da Vinci. Et alors, nous avons eu des soirées gastronomiques à l'italienne. Nous avons des concerts.
Attendez, allez pas trop vite. Des soirées gastronomiques. Qui j'ai vu, par exemple, j'ai vu un nom, Graziella Battista, le 15 août.
Ça, c'est le 15 août. Uh-huh. Nous avons même le grand Pasquale Vary, le juge de l'émission Les Chefs, qui est venu. C'était fureur. Il y avait même un supplémentaire. Les gens ont adoré.
C'est vrai.
Ce sont des gens sympathiques. Puis c'est une formule qui marche très, très bien, puisqu'on marie quand même la gastronomie puis la musique avec des étudiants qui sont mis en honneur.
Ah oui!
De musique. Alors, c'est fantastique comme formule. Puis on est très contents de le faire à chaque année. Et là, peut-être 3 semaines de festival qui restent. Alors, on a quand même quelques concerts.
Oui, on a le temps d'y aller. Hein? On a vraiment le temps d'y aller encore.
Oui, absolument. Et cette fin de semaine, nous avons, comme vous avez gentiment mis en honneur M. Oscar Peterson de Quatuor, Rémi Bolduc avec son ensemble. Et le pianiste pour ce concert, c'est Tommy Butler, un pianiste magnifique de Montréal. Et c'est un concert qui va être très en demande. C'est un concert très beaucoup d'énergie, très charismatique, Rémi. C'est un concert, je crois que c'est le vendredi, de mémoire.
Attendez-moi, je l'ai ici, c'est le 2 août. Alors donc, le 2 août,
Rémi Bolduc,
c'est jeudi. C'est vendredi, voilà, exactement.
C'est vendredi, voilà.
Voilà, vous l'avez parfaitement.
Alors, tant mieux, parce que je suis le dire.
Parce que, bien sûr. Wendy, je voudrais me permettre une petite précision.
Bien sûr.
Que souvent, lorsqu'on entend parler de ce festival à Offord, on pense souvent qu'il ne s'agit que de musique classique. Et c'est pour ça aussi qu'on avait mis l'accent sur le jazz. Parce que ce n'est pas que classique.
Absolument. Et je crois que c'est, pour nous, c'est, on a... ma vision d'Offord Music, c'est vraiment un joyau, c'est une perle dans notre région. On veut que tout le monde le découvre, que ce soit avec la musique classique, que ce soit avec la musique jazz. La musique jazz fait partie de notre histoire depuis plusieurs années déjà. On a quand même, on essaie toujours à chaque année d'avoir au moins 2 concerts de jazz durant l'été. Puis on a un concert ou deux de musique du monde. Alors cette année, nous avons eu le début de Floriana Candiano. On l'a fait venir d'Italie. Et c'est un de nos coups de cœur de l'été. La semaine passée, une jeune Italienne qui a chanté un peu de folklore italien.
Folklore napolitain, peut-être? Ou
napolitaine,
mais
voilà.
C'est ça, c'est un petit... Bon, c'est ce qui avait été mis à l'honneur par des ténors, notamment Pavarotti et tout ça. Ils se sont fait des gorges chaudes, si j'ose dire, à chanter.
Alors... Oui, on est très connu pour la musique classique, puis on veut pas changer notre mission, c'est sûr, mais on veut quand même pas exclure du monde. On veut qu'ils découvrent nos autres concerts, que ce soit avec la gastronomie, que ce soit avec le jazz, mais qu'ils disent « Ok, mais ça me tenterait peut-être de venir à un concert de musique classique. »
Oui, parce que la musique classique est très riche, très riche.
Oui, absolument. Alors, c'est de très bon augure pour cette année. Nous avons même un concert qui est plus jeune, avec Collectif 9. C'est un groupe de musiciens classiques. Je crois que c'est vendredi.
Oui, c'est le... Non, alors ça doit être... Si vendredi, c'est le 2, on parle de samedi, alors. C'est ça.
Samedi, voilà. Et ça, c'est un groupe qui est beaucoup plus jeune. Ce sont des musiciens classiques qui sont très innovants. Alors,
très intéressant, oui. Ils associent la musique, la musique, l'image et même les senteurs. C'est vraiment très, très étonnant et très intéressant. J'ai assisté à ça. C'est splendide. Vraiment. Je veux dire qu'on est emballé. On ne peut pas être autrement qu'emballé et en sortir vraiment émerveillé.
C'est quelque
chose d'extraordinaire. Oui.
Puis c'est quand même des jeunes musiciens. Alors, ils veulent inclure des éléments qui marche dans la musique pop, dans la musique rock. Alors, le visuel, les éclairages, ils mettent ça pour la mission de la musique. Voilà. Alors, ils font des synchronisations de l'éclairage avec la musique qu'ils jouent. Alors, c'est vraiment superbe comme spectacle.
Et tout ça, on est sur du Mahler, sur du Ligeti, c'est bien ça.
C'est quand même de la musique.
Et du Prokofiev.
Même du Bartok. C'est des compositeurs que peut-être les noms ne disent rien, mais la musique, si, vous allez le reconnaître.
Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr. Et puis, autre innovation, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, je me suis intéressée à ce spectacle, peut-être pour les plus jeunes, de cet auteur jeunesse, Mathieu Boutin, qui a préparé un spectacle pour tous les âges, qui raconte...
Oui, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour cette année. On
c'est
a
vrai?
Annulé pour des raisons, mais c'est quand même un concert qu'on veut mettre prochainement. Alors, c'est juste que partie remise pour ce concert-là. Mais on a beaucoup de concerts qui sont différents, notamment le concert de fermeture avec Nicolas Ellis. C'est un chef d'orchestre de chez nous qui amène son orchestre qui s'appelle l'Orchestre de l'Agora qui sont très innovants d'une autre façon. Ils sont très conscients de leur implication sociale.
Okay.
Alors, dans leur saison, chaque concert, ils décident de remettre une partie de leur profit à une cause sociale. Alors ça, c'est très différent. Je trouve que c'est comme... ça fait partie de leur génération. Et je trouve ça formidable.
Ça, c'est le 17 août que vous allez accueillir l'Orchestre de l'Agora avec Nicolas Ellis. Le 9... Oui, pardon, je vous ai interrompu.
Oui. En fait, ce concert met à l'évidence M. Daponte.
Oui.
Daponte, qui est le librettiste qui a travaillé avec Mozart.
Alors,
l'Italie. Alors, on va voir des airs connus, d'où les opéras.
Bien sûr,
Alors, il y a même un peu de narration de son histoire dans le concert. Alors, c'est quand même un concert qui est très interactif, disons.
J'ai vu qu'il y avait aussi une nouveauté, c'est l'ombre des ardoises. Il y a des centres d'interprétation de l'ardoise. Qu'est-ce que c'est, en fait?
Ça va super bien. C'est des concerts qu'on donne gratuitement à des endroits. Alors, on met vraiment nos jeunes stagiaires. Nous avons 450 stagiaires qui viennent chaque été, qui viennent un peu de partout. Ce sont les meilleurs étudiants du monde. On doit refuser justement des étudiants.
C'est très impressionnant ce que vous avez organisé quand même.
Alors, on choisit les meilleurs. Puis on les donne des opportunités à jouer, que ce soit à l'ombre des ardoises, que ce soit à Orpheus sur la Rose avec les à Eastman, disons, ou Saint-François de Xavier, ou les 5 à 7 ici. On a des 5 à 7 le vendredi. On veut que c'est pas à cause de l'argent, mais on veut faire découvrir la musique avec ces concerts gratuits. C'est très, très populaire. Je sais que l'ombre des ardoises, ils sont à pleine capacité. Maison Mary aussi, ils sont à pleine capacité.
Mais pourquoi l'ardoise?
Oui, c'est ça.
Parce que c'est une région.
C'est un partenariat que nous travaillons beaucoup avec leur, je crois que c'est le président, Pierre Baille, qui aime beaucoup un peu de musique, il croit beaucoup à notre mission. Alors, il voulait absolument faire quelque chose pour leur communauté, voilà. Alors, on s'est mis, puis on a discuté de différentes formules, et alors, on s'est entendu pour une première année pour faire des concerts chez eux. Et voilà que
ce que je ne comprends pas, c'est l'ardoise. Pourquoi l'ardoise? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient faire le mot?
Ah, je crois que c'est le nom du centre. Je pense que c'est juste le titre de mémoire. Je crois que
c'est pas une fonction. Et dites-moi, pour compléter le tout en plus, non seulement on peut s'en mettre plein les oreilles, on peut déguster, on peut manger, mais on peut boire aussi. Voyez-vous, vous allez nous faire un spécial vin italien.
Oui, en fait, nous avons un atelier qui s'appelle le Coffre au Trésor de vin.
Oui.
Alors, c'est avec le sommelier, M. Richard Sagala.
Oui.
Et on peut découvrir des vins que l'on a ici. Alors, ce sont vraiment des découvertes de vins. Et on fait une dégustation ici à Offer Music. Et l'année dernière, on a fait ça avec le saké. Parce que c'est c'était le Japon l'année dernière avec la thématique. Et c'était très, très populaire. Alors, on voulait le reconduire. Naturellement, le vin, c'est un alcool qu'on connaît très, très bien. Moi, d'ailleurs. Moi aussi. Alors, je crois que c'est...
Le 6, 7 et 8 août.
C'est ça.
Voilà.
C'est les dernières semaines.
Exactement.
Et en tout cas, j'espère que vous pouvez... réserver une place parce que c'est quand même, ça va très vite pour les
réservations. Oui. Et pour finir, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le prix Offered Music. Hein?
Oui.
Et donc un tremplin pour les jeunes.
Voilà. C'est, on voulait faire un concours. En fait, c'était notre idée à Offered Music de faire un concours qui est plus grand public. Et on voulait faire avec des influences de notre époque. Alors, je l'ai basé beaucoup sur Star Academy et La Voix.
Oui.
Alors, on voulait mettre les personnalités de chaque candidat à l'évidence, à l'honneur. Alors, on les filme. On fait une captation de vidéo qu'on présente au public avant qu'ils rentrent sur scène. Alors, on a une vidéo de leur parcours. Pourquoi ils viennent en film musique? Pourquoi ils font ce concours? Pourquoi ils se mettent de si grande pression pour faire ce concours? On monte ça au public. Oui. Et dès que la vidéo est finie, il rentre sur scène, il joue, puis le public a le droit, en demi-finale, de sauver un candidat.
C'est comme... OK.
Puis en finale, on a un prix coûtant de 10 000 $.
Bon.
Ils ont beaucoup d'importance, notre public. Et c'est pour ça que c'est aussi populaire.
Bon. Ronnie Song, je vous avouerai qu'en cette fin d'entrevue, la communication devient un petit peu mauvaise. Alors, mais on a fait le tour, il me semble, quand même, de ce merveilleux festival. Il nous reste une minute, François.
Oui, je voulais juste savoir, étant donné que ce festival est extrêmement... c'est un festival de grande ampleur. Est-ce qu'il est possible, facile, de se loger et d'y aller, de rester là, sur place?
Présentement, notre capacité est pleine à cause de nos étudiants qui prennent toute l'ampleur de notre site, mais avec nos partenaires, avec les hôtels de la région, il y a plein de possibilités de rester dans la région, de voir la montagne, le bel lac, puis écouter la musique en même temps.
Ça paraît tellement riche qu'on a envie d'y aller, hein, c'est vrai.
Merci beaucoup, Ronnie Song. Vraiment, vous faites ça, on sent avec beaucoup, beaucoup d'amour, et c'est très agréable de vous entendre et de vous découvrir. Alors, je vous rappelle que c'est à Orford, donc juste à côté de Magog en Estrie. C'est là-dessus. Au revoir, monsieur Song. Merci beaucoup.
Un grand plaisir.
François, on se dit au revoir aussi.
Au revoir,
merci à tous nos invités. Merci à Jean-Sébastien, La Liberté, à Louis Garon et à Claire Guérin qui travaille avec nous.